On ne peut pas lui en vouloir parce qu'ils savaient tous qu'ils utilisent les mêmes leviers et les mêmes valeurs. Ce ne sont pas des valeurs positives, ce sont des choses tout à fait informelles, des pactes et des collusions occultes qu'ils utilisaient pour leurs intérêts réciproques et pour leurs bénéfices réciproques. Donc ça, c'est la ligne officieuse. Il y a une rupture du pacte entre des gens en un moment donné qui utilisaient les leviers du pouvoir.
Mais si Robert Bourgeois et Juppé parle, certainement qu'ils ont l'aval, entre guillemets, de Nicolas Sarkozy.
Il est probable, on peut formuler cette hypothèse, et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent permettre d'aller dans ce sens-là. Mais la troisième ligne, qui est aussi une ligne qui est assez intéressante, c'est ce que M. Omar Ndiaye disait, la France est un État responsable, Sarkozy est intelligent, et puis M. Alain Juppé et tout le monde, ils sentent le vent tourner. Ils ont déjà fait beaucoup d'erreurs en Afrique du Nord, pour n'avoir pas pris à temps les bonnes décisions de se mettre du côté du peuple plutôt que du côté des pouvoirs.
En Tunisie.
Aujourd'hui, ils sentent, parce qu'ils sont là à Dakar, ils ont une ambassade, ils ont la presse, ils ont probablement des services de renseignement ici. Ils savent où se trouve aujourd'hui la légitimité et le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains du peuple. Abdoulaye Wade ne l'incarne plus. Barack Obama disait qu'il faut se mettre du bon côté de l'histoire. Aujourd'hui, je crois qu'en France, ils ont compris que l'État français doit réaffirmer de la manière la plus forte son ancrage dans le Sénégal plutôt que dans les intérêts du clan de Wade et de ceux qui sont autour de ça. Donc ils ont compris qu'il y a une tendance lourde aujourd'hui, que ce qui s'est passé, ce n'est pas un épiphénomène, comme l'ont dit certains gens autour du pouvoir, c'est une lame de fond. C'est le point culminant qui a fait converger des dynamiques sociales et politiques éparses et petites pour donner quelque chose de fondamental. C'est une énergie phénoménale qui s'est aujourd'hui créée dans notre pays et que plus rien ne peut arrêter. Ni Wade, ni le pouvoir aujourd'hui, ni les pouvoirs de demain. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils lisent mal ce phénomène. Ce qui s'est passé, aujourd'hui Wade en est victime, c'est clair parce qu'il est au pouvoir, mais n'importe qui d'autre arriverait demain. S'il essayait de faire les mêmes choses que ce que Wade a fait, il verrait la même opposition du peuple sénégalais parce que c'est un peuple debout qui a simplement pris les choses en main.
Oui, dans cette crise, il y a quand même des gens qui ont décidé de jouer au dialogue. Il y a 6 personnes, Pierre Goudia-Biatepa, Maïsidi Mbaye, Ismaël Madjorfal, Mansour Kama, Madame Anaba, Baïdiagne, entre autres, qui ont parti voir le président de la République, Baye Wade, sont partis voir l'opposition. Quelle est la crédibilité de cette démarche?
Bon, moi, je ne peux pas juger de la crédibilité de cette démarche. Je me dis que tout ce qui peut contribuer à éviter au Sénégal de basculer dans le chaos est le bienvenu. Bon, maintenant, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a à dialoguer entre Wade et l'opposition à 8 mois des élections. Je ne pense pas que l'heure soit au dialogue actuellement, sauf peut-être à dialoguer sur les conditions du départ de Wade. Etc. Mais bon, à 8 mois des élections, Wade aujourd'hui est dans une logique de confrontation. Vous avez bien étudié toutes les déclarations du PDS depuis lors, etc.
La mise en place de comités de vigilance.
Les gens parlent de mise en place de comités de défense
de la démocratie,
etc.
Dans les quartiers.
De comités de riposte, etc. Les forces de l'ordre disent qu'elles ne se laisseront plus surprendre, etc. Et Wade, jusqu'à présent, n'a pas parlé au peuple sénégalais, etc. Mais ça, quand même, il faut lire cette attitude. Mmh. Aujourd'hui, ces gens, ils sont dans une position de confrontation. Ben, je souhaite en tout cas beaucoup de chance.
Il n'y a pas de place au dialogue
assez médiateur, mais je ne pense pas, tel que je lis actuellement la situation, ça m'étonnerait qu'il y ait un dialogue. Encore faudrait-il savoir sur quoi porterait ce dialogue. Ben, souhaitons-leur bonne chance en tout cas.
C'est tout. Chateaubriand, par rapport au dialogue.
Oui, je crois que je devrais m'en limiter d'ailleurs à la conclusion de M. Ndiaye. On peut leur souhaiter bonne chance. Par contre, ce qu'on peut retenir, c'est ceci. Évidemment, on peut tous être d'accord sur le fait qu'en tant que citoyen sénégalais et ayant une certaine lecture de la situation, notre pays vient de traverser des moments extrêmement douloureux, difficiles, incertains, et qui a créé une sorte d'angoisse, mais même de peur chez les Sénégalais sur le lendemain. Qu'est-ce que nous allons vivre en 2012 si les choses continuent telles qu'elles ont commencé? Donc que des citoyens se lèvent à un moment donné, qui se mobilisent ensemble, ils sont 6, et même leur composition me paraît intéressante. Il y a un monsieur qui est très proche du pouvoir, M. Goudiaby. Il y a une autre dame qui est dans le secteur de la construction. Il y a deux responsables des plus grandes organisations patronales de notre pays. Et si le pays, s'il y avait le chaos, c'est le secteur productif qui en pâtirait. Donc le fait qu'ils soient là tous les deux et que l'un d'entre eux était dans les assises nationales, et toujours dans les assises nationales, c'est aussi un point d'analyse qui est intéressant. Et puis quelqu'un de spécialiste de la communication et un universitaire qui a déjà théorisé l'inconstitutionnalité
du mandat du président.
De la candidature. C'est intéressant. de ce point de vue-là. Donc c'est bien qu'ils aient tenté quelque chose. Mais il me semble, malheureusement, c'est comme l'a dit Mouchen Diaye, que leur lecture du contexte n'est pas la plus correcte possible. On peut lire le contexte de différentes manières, mais je ne partage pas la conclusion qu'ils ont faite. Parce qu'après avoir lu, ils ont pensé peut-être que la cause du problème, c'est la rupture du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On a dépassé cette étape dans la configuration du jeu politique au Sénégal, de l'espace public. Nous ne sommes plus dans un tête-à-tête pouvoir et opposition. Nous sommes dans un face-à-face entre quelqu'un qui incarne la République aujourd'hui, qui en est le chef, et son peuple qui lui a posé des questions. Donc s'il demande que le Parti démocratique sénégalais rencontre l'opposition pour discuter de choses et pour s'entendre je ne sais pas sur quoi, ça n'engagerait pas forcément les segments les plus représentatifs de la société. Le Benno Sigil Sénégal, on prend leurs militants, on prend les militants du pouvoir, ils ne font pas le dixième de la société sénégalaise. Aujourd'hui, ceux qui ont émis des demandes impérieuses, ce sont les populations du Sénégal. Ils pourraient à la limite demander au président de la République de parler à son peuple, ce qu'il n'a toujours pas fait. Il pourrait lui demander de bien comprendre ce qu'on lui a demandé et d'apporter les réponses. Et parmi ces réponses, il y a le fait que sa candidature est la candidature du chaos. Peu importe ce que le Conseil constitutionnel dirait, si le président maintient sa candidature, ce serait le chaos. Si la candidature est validée, ce serait le peuple qui s'en prendrait à cette institution et qui s'en prendrait à tous les autres, comme ils ont fait devant le Parlement, l'Assemblée nationale. Si cette candidature était rejetée, ce serait probablement les gens du Parti démocratique sénégalais qui seraient dans la rue et qui contesteraient des choses. Et ça pourrait faire une opposition entre une partie de la population et une autre partie de la population. Donc, quel que soit le scénario, le président de la République est aujourd'hui à seul les atouts et les instruments pour restabiliser notre structure et nous conduire vers un lendemain un peu plus clair que ce qu'on a en face de nous.
Dans ce débat, Modou Bar Ndiaye, la question de la RTS a été posée par Benno Sigil Sénégal, par aujourd'hui les syndicalistes qui sont à la RTS, qui demandent le départ de Babacar Diagne parce que pour eux, Babacar Diagne symbolise la propagande au niveau de la RTS.
Oui. Alassane, tu me permettras juste parce que je crois que je ne me suis pas exprimé quand même sur l'affaire de Robert Bourget.
Le temps, oui, allez-y.
Je m'exprimerai rapidement parce que moi, je trouve vraiment inqualifiable, proprement scandaleux, qu'un Sénégalais, quelle que soit sa posture, veuille faire appel en fait à l'armée française pour intervenir dans des affaires dans des affaires intérieures sénégalaises. Surtout que quand même la stabilité du pays n'était pas réellement menacée, etc., que les forces de l'ordre contrôlaient la situation, que la gendarmerie n'était pas débordée, la police n'était pas débordée, l'armée même n'avait pas eu à sortir, et qu'on manque à ce point de confiance en l'armée nationale pour faire appel à la France par le biais de réseau de la France-Afrique, parce qu'en réalité, Robert Bourget, c'est un peu le successeur de Jacques Foccart, qui était l'éminence grise du général de Gaulle pour tout ce qui concernait l'Afrique et qui a eu à fomenter beaucoup de coups d'État, etc. Bon, et aujourd'hui, Robert, au fond, c'est le successeur de Foccart, qui a eu à installer Ali Bongo Ondimba au pouvoir, etc. Et c'est peut-être parce que Karim a vu qu'il avait réussi à installer Ali Bongo Ondimba au pouvoir qu'il a fait appel à ses services. Évidemment, moyennant rémunération, parce que Robert Bourget, c'est un lobbyiste qui vit de ça, c'est un avocat, etc. Et donc, bon, pour qu'il l'introduise au niveau de Claude Guéant, etc., et Claude Guéant, au président Sarkozy, etc. Et c'est
parce que nous avons appris que M. Kariwad a été reçu plus de 15 fois par Robert Bourget. Entre le mois de mai et le mois de juin.
Oui, non, mais c'est très clair. C'est très clair que, qu'on a voulu que ce qui a était possible au Gabon puisse se reproduire au Sénégal, surtout que également Robert Bourget dit aussi que il a beaucoup contribué à installer Fournia Singbe au pouvoir. Il a dit j'ai installé deux fils de chef d'État au pouvoir, etc. Et ensuite bon, ces prochains ces poulains qu'il voulait installer après, c'était Karim ici et je crois que le fils du président Équato-Guinéen, etc. Bon, mais en fait je pense que cette attitude elle est à condamner parce qu'on n'a pas à faire appel à l'armée française dans nos affaires intérieures, surtout quand on voit ce que l'armée française a fait en Côte d'Ivoire en bombardant le palais du président Gbagbo, etc. Vraiment, c'est quand même intolérable. Pour en revenir à Babacar Diagne, moi je suis contre la position du Sempix tendant à mener un combat personnel. La nomination d'un directeur général est du ressort je veux dire du pouvoir discrétionnaire du président de la République.
Il parle
qui nomme aux fonctions civiles et militaires. Et Babacar Diagne, c'est un professionnel qui a fait ses preuves. Qu'on l'aime ou pas, c'est un professionnel de la télévision.
Mais sur la table par le syndicat, c'est que Babacar Diagne a atteint la limite de la retraite. Il y a d'autres compétences à la RTS.
Oui, d'accord, je suis parfaitement d'accord. Mais Babacar Diagne n'est pas le seul à avoir atteint l'âge limite de la retraite et avoir été maintenu aux affaires. Le directeur général de la Poste vient de bénéficier d'une prolongation. Il y en a d'autres qui ont bénéficié d'une prolongation. Et pourquoi faudrait-il qu'à chaque fois qu'un journaliste bénéficie d'une faveur quelconque, que tous les confrères lui tombent dessus, alors que dans les autres corps de métier, au contraire, les gens se félicitent.
Est au cœur de la communication
des
élections.
Oui, au cœur de la communication du PDS, c'est vrai, mais encore une fois, quand on voit ce qui s'est passé en 2000, si on prend surtout l'exemple des radios, etc., mais en réalité, la RTS était là, etc., mais ce qui a favorisé le changement, c'était les radios privées. Aujourd'hui, il existe des télévisions privées qui sont là. Donc, ce n'est pas forcément la RTS qui va, en fait, influencer les électeurs sénégalais, parce qu'aujourd'hui, il existe des télévisions, dont la vôtre, etc., qui sont aussi bien suivies, je dirais même plus suivies que la RTS, etc. Donc, en fait, c'est une fausse querelle. Et ensuite, il s'y ajoute qu'on va quand même, pour la couverture des élections, par contre, c'est la RTS qui est chargé de par la loi d'assurer donc la diffusion des temps de parole des candidats, etc. Et ça, en fait, ça demande un travail de coordination, ça demande une grande expérience et ça demande surtout des qualités, je dirais, de logisticien, parce que c'est une machine extrêmement lourde. Imaginez, nous allons avoir peut-être une vingtaine de candidats. Il faudra coller à chaque candidat une équipe de télévision. Et ces candidats, ils vont sillonner le fin fond du Sénégal. Il faudra qu'il y ait un parc automobile, mais extraordinaire. Il faudra qu'il y ait des motos de la gendarmerie. Je dis que Babacar a organisé les élections de 2100 quoi. Et c'est un risque aujourd'hui qu'à 8 mois des élections, qu'on ne change pas la CNRA, qu'on ne change pas la Sénat, etc. Et qu'on change le dispositif de la RTS qui repose essentiellement sur les épaules de Babacar Diagne, qui a déjà fait ses preuves. On ne va pas prendre... Enfin, c'est mon avis. Prendre le risque aujourd'hui d'amener quelqu'un, un novice ici, qui se planterait pour la couverture des élections, soit que des candidats ne puissent pas disposer de leurs éléments à temps, etc., c'est ajouter au chaos que nous craignons tous, etc. Et je pense que franchement, Babacar Diagne mérite parfaitement qu'on lui accorde cette prolongation dont il a bénéficié, surtout au vu du contexte quand même. C'est, on est à 8 mois des élections, changer de directeur, c'est courir un risque, etc. Et là, et le syndicat Saint-Pice de la RTS ne peut pas être là pour réclamer la tête de tous les directeurs qui se succèdent là-bas. Ils passent leur temps à réclamer la tête. C'était Daouda Ndiaye avant, etc. Bon, ils ont déjà contraint Daouda Ndiaye à doubler les salaires, ce qui ne s'est jamais vu, à doubler la masse salariale de la RTS. Et non content de cela, aujourd'hui, Babacar Diagne, avec ses maigres moyens, il a fait preuve de qualité managériale extraordinaire jusqu'à pouvoir payer les salaires à temps, etc. Vouloir exiger ça, c'est peut-être parce que tout simplement, il y a un syndicat dont les dirigeants sont inamovibles. À la RTS aussi, il faudrait en parler.
Cheikh Tidiane, par rapport à la RTS,
tout à fait. Alors,
le contexte, on parle de propagande, de machine de propagande pour le PDS.
Oui, la RTS est un espace, c'est un lieu social qui a la particularité d'être un segment de notre patrimoine commun. C'est un bien collectif qui appartient à la société sénégalaise, à l'ensemble du peuple. Une partie des travailleurs de cet espace-là ont posé sur la table des revendications, y compris le départ de leur directeur. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ça, si ce sont des revendications corporatistes, parce qu'il y a eu des problèmes internes à la RTS dans le fonctionnement, c'est une affaire. Je n'ai pas les éléments qu'il faut pour analyser cela. Par contre, parmi leurs revendications, il y a le fait que Babacar Diagne incarnerait, disons, une sorte d'instrument du pouvoir pour utiliser la RTS à des fins propres, de propagande politique. Cette revendication-là, si elle est sincère, elle recoupe une autre revendication qui, cette fois-ci, sort du peuple. Si vous voyez la plateforme du mouvement du 23 juin, il y a le fait que la RTS, en tant que service public, doit être libérée et ouverte de manière équitable à l'ensemble des segments de la société. Et c'est là qu'il y a un point de jonction entre ces deux revendications, internes et externes. Et c'est là que c'est intéressant. Pourquoi, en un moment donné, on fait cette demande-là à l'interne? Peut-être qu'ils estiment que, même étant travailleurs de la RTS, ce sont des citoyens Et ce qui est en train d'être dit et fait dans la société globale, ils ne s'y échappent pas. Ça les concerne aussi. Donc, ils ne font que transposer dans leur espace. La RTS, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le principal instrument public de, en matière de télévision. Ils utilisent ce qui est fait dans la société, dans leur espace propre, pour poser cette revendication. En contribuant en tant que citoyen, mais j'en sais rien, je ne connais pas leur motivation interne. Simplement, ce que je veux dire, c'est que en posant, ils montrent seulement qu'il y a une dynamique qui est en train de se jouer là, si la revendication est sincère. Et ça serait exactement la même chose que ce qui s'est passé récemment dans la magistrature. Ce sont des différentes corporations où émergent des logiques citoyennes, des petites dynamiques qui naissent dans les différentes interstices de ces segments-là pour converger à quelque chose. On l'a vu chez les magistrats, ils disent « nous sommes un pouvoir, nous sommes des citoyens et nous voulons être libres d'assumer notre souveraineté. »
Mais aujourd'hui, quel doit être le rôle de la RTS? On va vers des élections capitales à 6 mois qui vont être des élections controverses.
Son rôle, c'est d'être simplement un service public avec tout ce que cela comporte en matière de responsabilité, de droits et d'obligations, surtout d'obligations. C'est d'être totalement neutre et indépendant, équidistant vis-à-vis de chaque parti, vis-à-vis de tous les segments de la société. La RTS devrait donner la parole également de la même façon la plus équitable au PDS, à Benno Siguil Sénégal, à Yanamar, à Tartampion, à n'importe quel autre segment de la société qui exprimerait, disons, le souhait d'utiliser ce médium pour s'adresser aux Sénégalais. S'il accepte, s'il a les moyens de le faire, il n'y aurait aucun problème. S'il ne le fait pas, et je crois que c'est ça qui est l'objet de la revendication, ceux qui sont aujourd'hui dedans pensent que Babacar Diagne n'est pas le meilleur, n'a pas le profil idéal pour incarner ça parce qu'il aurait été entaché tout au long de sa trajectoire. Mais ça, j'en sais vraiment rien, je ne peux pas le dire. Ce qui est constant, c'est que peu importe qui va être à la tête de la RTS, il faut que la RTS assume cette mission de service public. Si c'est Babacar Diagne, tant mieux. Si c'est pas lui, il faut l'enlever pour mettre quelqu'un qui pourrait le faire.
Oui, mon demandé, on va vers les élections capitales. Quel est le rôle que doit jouer la RTS aujourd'hui?
Par
rapport au traitement de l'information.
La RTS doit être un espace de débat pluriel, refléter la diversité de la société sénégalaise. Et encore une fois, comme l'a dit si justement M. Diaye, jouer véritablement son rôle de service public. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Elle ne doit pas être une officine de propagande au service du pouvoir. Mais encore une fois, de même qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, le directeur général de la RTS seulement ne peut pas démocratiser la RTS. Et nous avons toujours, nous, dénoncé le fait que, quelque part, les journalistes de la RTS étaient à la botte du pouvoir. En tout cas, ils refusaient de s'assumer. Et tous les combats que nous avons menés ces dernières années, au niveau de la profession, quand il y a eu emprisonnement de confrères,
que
ceux-là
même qui sont à la RTS s'assument en tant que journalistes.
Oui, les journalistes de la RTS ont refusé de s'assumer, sauf quelques individus. Ils ont refusé de prendre part à nos marches, etc., parce que tout simplement, ils disaient qu'ils étaient un médium de service public, etc. Et il est heureux que cette prise de conscience soit intervenue aujourd'hui. Mais cela procède peut-être, comme l'a dit M. Gué, d'une maturation, etc., qui est la bienvenue, etc. Mais on ne peut pas dire que ce qui s'est passé jusqu'à présent à la RTS soit le seul fait de Babacar Diagne. Les journalistes ont toujours refusé de s'assumer au niveau de la RTS et il est heureux qu'aujourd'hui ils se réveillent enfin. Ils sont, comme on dit, bienvenus au club.
Voilà, merci infiniment Mamoudou Barandia. Le temps que vous avez parti est malheureusement terminé. J'étais avec Cheikh Tidiane Diaye, qui est sociologue, docteur en études du développement, et Mamoudou Barandia, directeur de publication d'hebdomadaire Le Témoin. À la technique, Abdoulaye Diop, micro Alassane Samba Diop. Bon dimanche à tous.